Vous écoutez France Culture.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Aujourd'hui, bling bling, mais populaire.
Du grain à moudre.
Julie Clarini.
Brice Couturier.
Pour la première fois depuis son élection il y a 8 mois, la cote de popularité du président de la République est négative. 48% des personnes interrogées émettent une mauvaise opinion contre 45% qui conservent un avis positif, selon le sondage BVA publié mardi dernier. La chute est impressionnante, 10 points de perdu au cours des 2 derniers mois. Alors, s'agit-il d'une tendance ou d'un simple trou d'air ? En tout cas, cette soudaine érosion pose à nouveau la question de la compatibilité entre le style très particulier de Nicolas Sarkozy avec les mentalités et les attentes de la majorité des Français. En effet, depuis une certaine une de Libération, celle du 19 décembre dernier, un qualificatif colle à la peau de Nicolas Sarkozy, le président bling bling. Alors rappelons aux non-initiés que l'onomatopée vient du hip-hop, où elle désigne l'un des courants de ce style dans lequel le rappeur exhibe d'énormes chaînes dorées, porte à son poignet l'inévitable Rolex et sort souvent dans les rues surchauffées de Los Angeles dans un manteau de fourrure blanche. Le rappeur Bling Bling est en outre environné à la scène comme à la ville d'une flopée de bimbos siliconés, bref, le sommet de la vulgarité. Si Nicolas Sarkozy est Bling Bling, c'est donc qu'il participe, toute proportion gardée, à un certain style de vie, à une manière de se déplacer et de se mettre en scène qui nous viennent de la culture populaire contemporaine, celle que véhiculent les télévisions. Et c'est bien ce qui choque, comme l'écrit Laurent Greilsheimer cette semaine dans Le Monde, lui qui défend le président Bling Bling, je cite « sans complexe et sans tabou », contre, je cite toujours, « le mépris dont l'accablent ses confrères de Libération ». Avec Nicolas Sarkozy, écrivait en effet Laurent Geoffrin dans Libé cité, je le cite, « nous sommes passés de la 5e République à la M6 République ». Comment nier en effet que ce président hors norme semble en phase avec la culture télévisuelle de notre époque, celle de la télé-réalité et des talk-shows où anonymes et vedettes viennent confier en direct les aléas de leur vie privée. D'où la question qui s'impose, Nicolas Sarkozy est-il le produit de cette culture télévisuelle ou bien a-t-il délibérément modelé sa communication sur la nouvelle réalité imposée par les chaînes de télévision, les clips et la presse people ? La mise en spectacle d'une vie privée aussi compliquée que celle d'une star d'Hollywood, les déplacements permanents, la personnalisation du pouvoir, les grands restaurants, les grands hôtels, tout cela contribue-t-il à conforter son message politique ou bien à le perturber ? Enfin, une politique de civilisation qui impliquerait de réassumer notre héritage culturel, Renaissance et Lumière en particulier, est-elle vraiment compatible avec cet effacement des limites entre vie publique et vie privée que la culture télévisuelle contemporaine nous incite perpétuellement à transgresser ?
Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Guylaine Ottenheimer, qui est éditorialiste à Challenge, qui est chroniqueuse sur iTélé, sur RTL, qui a été l'auteur d'un petit essai sur Nicolas Sarkozy il y a quelques années, et puis qui a sorti au printemps dernier « Le sacre de Nicolas, petits et grands secrets d'une victoire », c'était paru au Seuil. À ses côtés, Jean-Daniel Lévy, qui est directeur adjoint du département opinion de CSA. CSA, faut-il le rappeler, c'est un institut de sondage. Avec nous également deux spécialistes des médias, Éric Maigret, qui est professeur de sociologie des médias à Paris 3, Sorbonne, chercheur aussi au CNRS. Il est l'auteur d'un ouvrage qui va paraître d'ici 15 jours, on le trouvera dans les librairies, L'hyper-président, et c'est chez Armand Collin. Et enfin Denis Muset, qui est lui aussi sociologue, qui dirige l'Institut Médiascopie et l'Observatoire du débat public. Il enseigne au département de sciences politiques à Paris 1, Sorbonne. Et il vient de publier avec François Jost le Télé-président aux éditions de l'Aube.
Alors, ma première question sera pour vous, Jean-Daniel Lévy. Le président hyperactif, comme on dit dans la presse, le speedy Sarkozy, comme on dit dans la presse anglo-saxonne, on nous dit qu'il impose son rythme donc survolté aux médias, de même qu'il impose aux syndicats son tempo de réforme accéléré pour les assiéger. Mais si c'était l'inverse, si c'était les médias qui dictaient l'agenda à Sarkozy, si c'était l'appétit de surprise, de rupture et de transgression de ces mêmes médias qui l'obligeait, qui lui imposait son tempo, à ce président qui se veut tellement en phase avec les éléments, disons, les plus contemporains, les plus modernes de la société. Si c'était l'inverse.
Et si c'était l'inverse, on n'aurait peut-être pas uniquement Nicolas Sarkozy qui serait au centre du jeu, mais peut-être que l'ensemble du personnel politique aujourd'hui serait amené à modifier en fait son comportement et son attitude à l'égard des médias. Et on voit aujourd'hui qu'il n'en est a priori absolument rien. Nous avons toujours un Nicolas Sarkozy qui est extraordinairement présent et on a vu les comptabilisations qui ont pu être faites de ses apparitions, notamment dans les journaux télévisés. Et le parallèle est assez saisissant avec un certain nombre d'autres responsables politiques. On peut voir notamment Ségolène Royal, François Hollande ou même le Premier ministre qui jusqu'à présent apparaissait comme étant plutôt effacé et qui même en a pour partie récemment théorisé en fait cette sorte de retrait à l'égard de l'exposition de sa vie privée.
Même question à vous et Éric Maigret qui vous occupez précisément de cet hyper-président. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'à force de vouloir courir derrière les médias, on finit par se voir imposer leur propre rythme ?
Oui, alors, moi, quand j'écris dans l'hyper-président, hype-président aussi, H-Y-P-E, bling-bling, c'est hype d'une certaine façon, c'est pour souligner le fait que nous sommes effectivement dans un contexte plus large quand même. Effectivement, on voit d'abord Sarkozy aujourd'hui, mais je pense que le tournant de l'hyper-médiatisation politique, l'événementialisation, la transformation, l'imposition des agendas politiques à la presse, aux médias en général, est un tournant qui a été pris non seulement par Sarkozy, mais par Ségolène Royal, et même par François Bayrou, voire les candidats de l'extrême droite et de l'extrême gauche. On entend beaucoup parler de Sarkozy aujourd'hui parce qu'il est président, tout simplement. Mais c'est une plus large, une adaptation, moi, je dirais, nerveuse, fébrile même, du monde politique à l'hypermédiatisation des années 80-90 que les hommes politiques ont subi pendant les dernières décennies et que tout à coup, on est en train de retourner. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que la messe est dite.
C'est très complexe. Il y a comme une différence de taille avec Ségolène Royal. C'est que Ségolène Royal a dissimulé pendant toute la campagne électorale l'état de ses relations avec François Hollande, qui en plus était le premier secrétaire de son parti, qui s'était détérioré au point qu'ils avaient rompu. Donc elle n'a pas rendu publique cette rupture. Elle a attendu la fin du deuxième tour des législatives pour l'annoncer publiquement. Alors que Sarkozy a fait de ses retrouvailles et ruptures avec Cécilia un argument de sa campagne. Donc on voit bien qu'il y avait deux stratégies là qui étaient différentes, d'où le thème de la pudeur que Ségolène Royal reprend aujourd'hui.
Il y avait deux stratégies proches au départ. Les deux ont menti sur leur vie privée, puisque Sarkozy était en couple, mais bon... On savait bien, et la rumeur sur Internet en particulier joue un rôle d'information dans ce cas-là et pas de désinformation. Dans le cas de Ségolène Royal, François Hollande aussi, on savait bien que...
Les journalistes, mais la presse n'en a rien dit.
Non, ça se diffusait quand même pas mal sur Internet et rapidement sur les journaux People. Et rapidement, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu rupture du couple Royal-Hollande après la présidentielle et 6 mois plus tard, du couple présidentiel lui-même, qui traduit quoi ? Simplement l'accès au pouvoir de l'un des deux couples et celui de Sarkozy à Cécilia. Qui signifie qu'on attend plus longtemps parce qu'il y a une espèce de difficulté à gérer en réalité cette contradiction. Bon, on en est loin aujourd'hui d'ailleurs. Sarkozy a franchi le Rubicon.
Denis Musée.
Écoutez, à la question, est-ce que ce n'est pas les médias plutôt qui sont à l'origine de cette course-poursuite, je dirais c'est les deux. Hein. C'est une coproduction entre les médias et les politiques. Aujourd'hui, on assiste à une fusion du politique et du médiatique. Ce qui ne passe pas à la télé n'existe pas. Nicolas Sarkozy en a tiré les conséquences. Et je voudrais mettre un peu en perspective quand même. Quand Mitterrand a commencé son septennat, il y avait 3 chaînes de télévision. Aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines. Et je ne parle pas d'Internet, des radios et tout le reste. Et Nicolas Sarkozy, qui est un enfant de la télé, dont on sait que depuis 1992 en particulier, il regarde énormément la télévision, il est un gros consommateur de télé, a pris acte de cette évolution de la société médiatique, qui est devenue une société de flux d'informations permanents, caractérisée par le zapping et de plus en plus le multitasking, le fait de faire plusieurs tâches sur des médias différents au même moment, simultanément. Et il a mis au point, si vous voulez, une méthode d'expression de sa communication qui consiste à formater des interventions ultra courtes, ultra compactes de quelques secondes compatibles avec le nouveau temps des médias qui est un temps de l'urgence permanente. Et donc sa technique consiste à s'insérer dans cette info de flux par une image, un mot, Karcher par exemple, ou un geste. Il s'efforce toujours de joindre le geste à la parole. Et c'est pour cela qu'il a comprimé le temps. C'est-à-dire qu'il dit « je vais faire toutes les réformes en même temps ». Chez Sarkozy, il n'y a plus de temporalité. Autrefois, les présidents communiquaient dans le temps, de façon successive et séparée. Certains donnaient du temps au temps et d'autres avaient prôné, les mêmes avaient prôné avec Jacques Pinan, la rareté. Nicolas Sarkozy, il a supprimé le temps, il déploie sa communication dans l'espace, on le voit aux quatre coins de l'Hexagone et du monde, il nous envoie des cartes postales d'Airbus pour montrer qu'il s'occupe des salariés et déjà quand il déjeune avec les salariés d'Airbus, on a l'impression que les problèmes d'Airbus sont réglés. On le voit le lendemain avec les personnels des urgences de l'hôpital de Dunkerque, puis on le voit avec le père du petit tennis violé. Puis on le voit en Corse auprès des victimes du racket. Il adore les victimes. Et ça, c'est encore autre chose. C'est qu'il a tiré les leçons de la télé-réalité. Quand il rencontre les Français, il ne rencontre pas une corporation, un collectif. Il rencontre un individu précis qui porte un nom et un prénom, le marin-pêcheur emblématique du Guilvinec, que personne ne connaît sauf les pêcheurs
celui
du Guilvinec.
Celui qui l'a traité d'enculé.
Absolument. Et il va s'appuyer sur cette relation privée, personnelle. Par exemple, il dit en Corse à Saint-Florent, à la citadelle de Saint-Florent, quand il rend hommage aux victimes du racket en Corse, il dit à Lucien Benvenuti, restaurateur victime d'un plasticage, « Je vous ai vu à la télé et j'ai trouvé que vous étiez un homme courageux. J'ai voulu être à côté d'un homme courageux. » C'est bien cela, c'est le principe de la télé-réalité. On prend un anonyme, on en fait un héros et à travers la relation privée qu'on établit avec lui, on permet aux Français de s'identifier à une cause simple et qui devient beaucoup plus humaine.
Guylaine Ottenheimer, on nous dit Sarkozy est un enfant de la télé, il en consomme énormément, de même que quand il était adolescent, paraît-il, il affichait les photos des vedettes de Johnny Hallyday et de Claude François en particulier sur les murs de sa chambre. Est-ce que Sarkozy est enfant de la télé au point où c'est spontanément qu'il en adopte le rythme et les usages, ou est-ce que c'est une stratégie de communication délibérée de sa part pour coller à un électorat qui est majoritairement influencé, il faut bien le dire hélas, davantage par TF1 que par France Culture?
Les deux, parce que je crois qu'il faut distinguer le style et le fond. Sur le fond, Nicolas Sarkozy, effectivement, d'une certaine manière, manipule l'opinion publique parce qu'il veut masquer le fait qu'il mène, grosso modo, une politique libérale de droite. L'ordre, le travail, la libération des énergies, etc. Mais ce discours ne passe pas dans la France d'aujourd'hui. Donc, il maquille à la fois avec l'ouverture, avec un discours sur beaucoup de terrain, où il donne du grain à moudre à tout le monde. Et ça, il y a un vrai côté artificiel et un vrai gap entre ce qui est le fondement de sa politique et ce qu'il donne à voir. Et puis, sur le style, il y a une grande part de spontanéité. C'est vrai qu'il est comme ça. Et c'est un excellent produit pour la télévision. Là, je discutais avec des jeunes étudiants qui avaient regardé la conférence de presse et qui disaient qu'ils l'avaient regardé comme on regarde un show. Avec ses blagues, la façon dont il va retourner les journalistes, etc. C'est un excellent client et il y a une fascination. Et là où c'est compliqué pour la presse, c'est qu'une une sur Sarko, ça se vend. Or, c'est un produit qui se vend, un journal. Et si vous commencez à dire, on va faire un truc un peu de fond sur comment Roselyne Bachelot est en train de travailler sur le bouclier sanitaire, j'aime autant vous dire qu'en conférence de rédaction, ça va moins vamper votre rédacteur en chef que si vous dites, je sais qu'il part demain à Petra. Donc, on est quand même dans... Le produit Nicolas Sarkozy se vend extrêmement bien. Et nous, c'est notre difficulté, les journalistes politiques, d'intéresser aux questions de fond qui sont là sous-jacentes. Parce que les ministres sont en train de faire un énorme travail de fond sur beaucoup de terrains. Il y a des révolutions qui sont en train de s'opérer. Ne serait-ce que là, la révolution sur les négociations sur le droit du travail. C'est une révolution dans ce pays, quand même, que des syndicats patronaux se mettent d'accord avec des syndicats de salariés pour une rupture à l'amiable. Il y a un an et demi, ça aurait fait la une des journaux pendant 10 jours. Là, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, on est un peu coupable. Mais je ne pense pas que, par exemple, Nicolas Sarkozy instrumentalise tout le temps sa vie privée. Je crois qu'il est plutôt victime un peu de sa vie privée et de ses pulsions qu'il ne le met en scène. Et il y a beaucoup de considérations autres que simplement maquiller sa vie politique dans sa façon de mettre en scène sa vie privée. Je pense qu'il y a une revanche sur beaucoup de choses.
de des musées.
Je confirme tout à fait. Dans les enquêtes qu'on fait cet automne, on voit que la rupture est consommée, si j'ose dire. La promesse de rupture est tenue pour les Français, essentiellement parce que Sarkozy a changé le style. Il a dépoussiéré, il a rajeuni la façon de présider, beaucoup plus décontractée, beaucoup plus proche, humaine, permettant l'identification. Je ne dis pas que c'est un bien, mais je dis que c'est une réalité que les gens constatent et dont ils lui sont reconnaissants, y compris parmi l'électorat de gauche.
La dignité avant, de la fonction.
Avant la dérive bling-bling. Attends, il faut pas tout mélanger. Ça marche jusqu'au mois d'octobre, on va dire, jusqu'au début novembre, jusqu'au conflit social des retraites. Et le style étant plus fort que le fond, ça profite effectivement d'une tendance des médias générales à privilégier la forme sur le fond. Parce que le fond, c'est chiant. Les dossiers politiques, c'est compliqué, c'est abstrait, c'est lointain, c'est technicien. Ça n'intéresse pas grand monde. Je ne veux pas prendre les gens pour des imbéciles ou donner l'impression que je suis méprisant vis-à-vis de ceux qui se passionnent de politique, qui lisent Le Monde tous les jours et qui écoutent France Culture. Mais la politique auprès du grand public, c'est devenu un objet pénible. Et donc les journalistes qui sont pris par ailleurs dans une dictature de l'urgence médiatique, du temps court, qui ont des contraintes de production, qui traversent une crise, qui n'ont pas forcément les équipes pour pouvoir faire des dossiers compliqués, etc., cherchent des angles qui accrochent, qui sont accrocheurs. Et ça, c'est la pipolisation. Et c'est typique ce qui s'est passé au moment des vœux du 31 décembre. Tout le monde a dit « Attention, il va y avoir une rupture dans le style. Il va faire des vœux dans un style différent. » Et puis, il a fait des vœux hyper classiques. Si ce n'est qu'il lisait le prompteur et qu'il le lisait mal. Mais il a fait des vœux classiques. Et du coup, on n'a pas du tout commenté le contenu, alors qu'il commençait à parler de politique de civilisation dans ses vœux et qu'il y avait une vraie rupture sur le fond du discours. Donc, le fond intéresse peu et malheureusement, on se focalise sur la forme.
Dans le petit ouvrage d'Olivier Mongin et Georges Vigarello là, qui paraît chez Perrin, qui reprend d'ailleurs des articles de la revue Esprit, Vigarello, dont on sait que c'est un historien du corps, analyse justement le corps de Nicolas Sarkozy en disant que c'est une opération de désymbolisation qui est à l'œuvre. Parce que le corps de Sarkozy, ben, c'est Sarkozy dont on voit les jambes quand il court, c'est Sarkozy torse nu dans ses vacances aux États-Unis, c'est Sarkozy qui transpire. Et puis, il faudrait parler du langage, c'est Sarkozy qui tutoie ses concitoyens, qui tutoie ce pêcheur qui l'insulte, il le tutoie. Bon, cette opération de désymbolisation, est-ce qu'elle peut être payante à long terme? Parce qu'on vient de dire à l'instant, c'est un produit qui s'est bien vendu, mais est-ce qu'il va se vendre longtemps, le produit Sarkozy? En ce sens qu'on sait qu'en France, quand même, la République est héritière de la monarchie. Il y a cette tradition des deux corps du roi. Il y a le corps du quotidien, de l'action, et puis il y a le corps du temps long, le corps du surplomb, celui qui ne meurt jamais. Et on a un peu l'impression que Nicolas Sarkozy, il a du mal à prendre cet habit-là. D'ailleurs, dans la photo officielle du président de la République, il est un petit peu mal à l'aise, il est un peu guindé, il n'arrive pas à lire son prompteur quand on lui demande de faire cet exercice des vœux à la nation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, sur le long terme pour Nicolas Sarkozy? Alors, c'est une question pour Jean-Daniel Lévy et la cote de popularité.
J'irais même peut-être un petit peu plus loin que vous dans l'exposition du corps de Nicolas Sarkozy. C'est que même dans sa manière de faire de la politique et de s'exposer devant les Français depuis son élection à la présidence, il donne le sentiment aux Français de ne mettre absolument aucun paravent entre lui et les Français. Le Premier ministre, en fait, n'est plus présenté comme étant un fusible. Les corps intermédiaires n'apparaissent pas comme étant des protecteurs éventuels entre chacun des citoyens et le président de la République. Et même sur la scène internationale, il ne va pas invoquer des contraintes extérieures qui seraient de nature, en fait, à pouvoir faire écran entre lui et le peuple. Hein. Ni l'Europe, ni les marchés financiers, ni la mondialisation, comme cela avait pu être évoqué par un certain nombre de présidents ou responsables par le passé, ne semble en fait limiter son action. Et donc, il y a, et c'est un des premiers éléments de la rupture, une très grande interrogation de la part des Français, mais un sentiment d'impossibilité dans un premier temps de se projeter en se disant cette attitude apparaît comme étant assez suicidaire. C'est-à-dire que les présidents précédents se donnaient des marges de manœuvre, des capacités de pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles ils n'arrivaient pas forcément au bout de leur action. Et donc, dans ce don de soi qui apparaît et cette exposition qui apparaît aux yeux des Français, il y a entre un phénomène de fascination et même d'inquiétude en termes de projection personnelle et puis en même temps une difficulté à pouvoir s'approprier le président Nicolas Sarkozy comme les précédents présidents de la République. Alors, tout ceci jusqu'à présent fonctionnait plutôt bien et pour revenir exactement à votre question, tant que nous étions dans un phénomène où Nicolas Sarkozy était jugé autour de sa dynamique politique et le fait qu'il engage un certain nombre de réformes et qu'il montre en fait que le président de la République était exactement la même personne que le candidat à la présidentielle qui était exactement la même personne que le ministre de l'Intérieur par le passé, est toujours en mouvement, toujours présent effectivement aux quatre coins du territoire et avec une expression permanente. Tout ceci fonctionnait bien. Il y a eu un basculement au moment justement où il y a pas uniquement les modifications concernant sa vie privée, mais l'exposition concernant sa vie privée. Un petit trouble dans l'opinion, notamment de la part des catégories de population qui sont les plus à droite sur l'échiquier politique, celles qui sont également les plus traditionnelles dans leurs attitudes et leurs représentations à l'égard des fonctions de la République française, donc les personnes les plus âgées, les personnes qui sont les catholiques les plus pratiquantes et qui ont été un petit peu interpellées. Et puis, dans le même temps, des populations, notamment les catégories populaires, qui se sont dit la dimension de dynamisme politique est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on se demande un petit peu précisément les aspects concrets de la mise en place de ces politiques publiques et on en est venu à la question du pouvoir d'achat.
Donc bref, on voulait dire que le Sarkozy était en train de perdre les catégories bourgeoises et de gagner les catégories populaires, ce qui est quand même assez paradoxal, mais ça m'introduit à la question que je voulais vous poser, Éric Maigret, qui est la suivante. Si Nicolas Sarkozy est, comme le dit Libération, un président bling-bling, ça veut dire que le quotidien de gauche, le grand quotidien de gauche aujourd'hui, le juge vulgaire. Alors avouez qu'il est assez plaisant et quelque peu paradoxal de voir ce journal créé par d'anciens maoïstes reprocher son manque de tact, de goût, de pudeur et de politesse à un politicien de droite. C'est, on peut dire, quelque part le monde à l'envers. Mais précisément ce déplacement des lignes est bien lui-même dans la manière sarkozyste.
Oui, tout à fait.
Éric Maigret.
En fait, Sarkozy a un fond idéologique et politique qui est hétérogène, délibérément. Il y a un bloc réactionnaire. Il y a un bloc libéral ou ultralibéral, il y a un bloc blairiste, c'est-à-dire aussi qui inclut des politiques publiques, revalorisées ou pas, et puis il y a un bloc même cosmopolitique, je dirais, hein, le Grenelle de l'environnement, notamment la référence à Morin, qui n'est pas
un bloc populiste,
qui n'est pas complètement vide. Alors le populisme, ça serait d'allier tout ça ensemble. Moi, je ne pense pas que c'est du populisme. Je pense que Sarkozy, au-delà de l'adaptation aux médias de masse et à leur fonctionnement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est en fait quelque chose de très profond. Un individu politique placé dans une longue chaîne évolutive qui commence avec Reagan, qui passe par Blair en Grande-Bretagne, Berlusconi en Italie, des gens très différents quand même, bien sûr, mais qui sont simplement des gens en prise avec un nouveau fonctionnement de la démocratie, dans une véritable incertitude profonde du fonctionnement contemporain. Le sarkozysme, c'est quoi? C'est une réponse parmi d'autres, je dirais presque désespérée, à une certaine crise de la représentation politique que Ségolène Royal, elle aussi, avait perçue, bien sûr, et elle apportait une réponse diamétralement opposée. Moi, j'oppose l'hyper-président Sarkozy, qui est une espèce d'enflement de la fonction présidentielle, mais comme on enfle une baudruche, qui peut très vite se dégonfler, c'est ce qu'on voit à travers les sondages, mais un enflement qui a une signification, c'est une volonté de toucher le corps du peuple dans un corps à corps permanent du président, qui bien sûr perd tout à fait sa fonction ancienne de monarque. Il se dissout d'une certaine façon, je dirais, comme une pixelisation, voilà, pour essayer de toucher tout le monde en même temps, y compris dans un contact entre guillemets populaire ou pseudo-populaire, le bling-bling par exemple, qui est assumé chez lui, alors que Ségolène Royal proposait autre chose, mais avec la même volonté de toucher plus le peuple au-delà de la représentation classique.
La compassion.
C'est ce que j'appelle la compassion, c'est ce que j'appelle l'hypo-présidente, la présidente d'en bas, du dessous, puisqu'elle proposait que les réseaux sociaux prennent en quelque sorte le pouvoir. La France présidente, on avait...
C'était de l'infra-politique en sorte.
C'était de la politique qui se voulait entre guillemets participative, selon le vieux discours de gauche, ou le néo-discours plutôt de gauche participatif. Alors Sarkozy et Royal sont donc beaucoup plus proches qu'on le croit, sauf que Sarkozy effectivement a choisi d'utiliser la fonction présidentielle représentative pour toucher entre guillemets différentes catégories du peuple à travers des discours idéologiques différents, politiques, etc. Ce versement dans la politique people et dans cette dissémination du corps du roi, hein, qui n'existe plus en réalité. Donc ça traduit quoi sur le fond et sur le long terme, pour répondre à votre question, essentiellement pour moi un processus de désenchantement et de sécularisation que je dirais bienvenu, mais qui est évidemment très complexe puisque nous sommes à mi-chemin encore dans la transformation du politique et de la représentation aujourd'hui. Donc je ne jette pas la pierre à Sarkozy pour le coup. Je ne crois pas que c'est un processus superficiel du tout. Je crois que c'est un processus qui ne signifie pas d'ailleurs sa condamnation en termes politiques et de sondage, parce qu'on a des processus très complexes dans les sondages, hein, des enchantements classiques au bout de quelques mois. Je ne suis pas sûr aujourd'hui s'il y avait une présidentielle qui serait battue par quelqu'un de gauche. Mais n'empêche qu'effectivement, c'est un processus contradictoire qui va amener de la complexité dans les réponses sociales et politiques. Voilà.
Oui, je voudrais revenir sur cette question du corps que vous posiez et de la durabilité de cette représentation du corps. Il faut bien comprendre que la communication politique depuis très peu d'années, c'est à 70% l'image et en particulier le corps, à 20% la voix et 10% le texte. C'est-à-dire que la relation politique se fait d'abord à travers une image, un sentiment, l'observation des comportements, des personnages, des personnalités et donc de leur physique. Quand Chirac grimpait à bord d'un Airbus avec une corde de chef d'entreprise pour aller vendre des contrats en Chine, il communiquait ce côté entrepreneur, VRP, il préfigurait ce que Sarkozy allait faire. Mais il y a une grosse différence entre Chirac et Sarkozy. Chirac jouait 1, 2 rôles, éventuellement 3 maximum. Sarkozy joue tous les rôles successivement. C'est un grand acteur. Il y a une plasticité extraordinaire chez cet acteur. D'une part, il est toujours en mouvement. On le représente en tout cas en mouvement perpétuel. On le représente comme un personnage ubiquitaire, capable de tout faire en même temps, hyper performant, qui permet de renouer avec le mythe de l'hyperperformance. Qui ne rêve pas aujourd'hui de pouvoir tout faire en même temps? Sarkozy le fait. Donc, il y a une identification qui s'opère aussi de cette manière. Et il est capable surtout d'interpréter un rôle différent d'un épisode à l'autre. Il est capable de faire du classique, de faire du Chirac lors de ses vœux le 31 décembre, de faire du De Gaulle à sa manière, revisité bien sûr le 8 janvier dans sa conférence de presse. Et comme Gabin, comme un grand acteur, il peut jouer demain un rôle complètement différent parce qu'il va faire du classique pour pouvoir le lendemain créer la surprise, faire l'écart. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il construit comme discours, comme histoire dans la durée. Jusqu'à présent, on a une succession d'épisodes. Ces épisodes ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Ce sont des assauts de sincérité successifs. Quand on le voit à N'Djamena, on est épaté. On le voit grimper dans l'avion, aller chercher les hôtesses de l'air à N'Djamena. Formidable récit médiatique. On le voit ensuite, on le voit aussi donc auprès des... C'est Nicolas Sarkozy au champ, Nicolas Sarkozy à l'usine, Nicolas Sarkozy auprès des marins-pêcheurs, etc. Et là, il illustre par sa geste présidentielle, à la manière des chansons de gestes, c'est ce que nous développons dans le livre Le Téléprésident, il illustre son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Il est hyperactif, il invite les Français à travailler plus. Et puis, tout d'un coup, ça se bloque. Pourquoi ? Parce qu'au mois de décembre, on le voit tout d'un coup un samedi à Euro Disney, en train de s'amuser, de jouir. Et puis, on le voit quelques jours plus tard, sous le soleil d'Égypte, à Louxor, avec Carla Bruni, et en Jordanie. Et là, il y a un décalage entre la bande-son « Travailler plus pour gagner plus », qu'on entend depuis plusieurs semaines, et puis l'image qui montre un président aux antipodes du travail, se décontractant au soleil, jouissant de l'instant présent, et semblant oublier des Français et de leurs soucis, alors qu'eux-mêmes sont dans le problème de boucler leur fin de mois, le pouvoir d'achat, la France est en crise, Fillon a dit qu'elle était en faillite, même l'État... Et donc, tout d'un coup, il y a un décalage qui fait que l'histoire ne fonctionne plus très bien. Et alors, il y a ce revirement du 8 janvier sur la politique de civilisation, où Nicolas Sarkozy semble passer du bling-bling qu'on lui reprochait à ce que j'appelle, moi, le gong-gong. C'est-à-dire, il est passé de l'argent, l'économie, à la civilisation, la culture, les valeurs, l'identité, dans le prolongement du discours de Latran. Toute la question est de savoir si les épisodes successifs construisent un sens, une histoire, parce que les Français ont besoin de sens. Pour l'instant, je vois une succession d'épisodes sans grand enchaînement cohérent.
Mais Denis, moi... En même temps, il y avait la permanence et ces contradictions étaient là dès le départ. Je veux dire, quand Sarkozy est élu, il part directement sur le yacht de Bolloré. Voilà. Donc le bling-bling...
Ça commence tout de suite.
C'est synchronisé, complètement. C'est donc la crise que l'on voit aujourd'hui, qui se traduit peut-être dans une baisse de sondage, je pense qu'elle est plus complexe que ça. Elle est liée en grande partie, à mon avis, aux manifestations et aux grèves de décembre. Mais je veux dire, Sarkozy n'a pas menti en quelque sorte sur ce qu'il faisait. Le versement dans le bling-bling, il est instantané.
Donc, la
coexistence des récits, la contradiction, qui est un vrai problème, moi que j'aborde aussi dans mon bouquin, le problème de la cohérence, se pose effectivement. Sauf que nous sommes dans des sociétés, dans des mondes politiques dans lesquels la cohérence n'est plus une question première, justement. Chirac n'était pas cohérent, et surtout pas cohérent, et Mitterrand de moins en moins. Et même si vous remontez à Thatcher, qui est une personne qui a commencé à allier des politiques très contradictoires, contrairement à ce qu'on croit, et pas seulement néolibérale, comme on dit. La cohérence ne se posait qu'en termes d'intention idéologique et pas du tout dans la pratique politique.
Séguéla n'est pas d'accord avec vous. Dans l'Express de la semaine dernière, ça parce qu'il vient d'être retiré par celui qui vient de sortir, il dit « On assiste là au remplacement de la fonction présidentielle par la personnalisation de la présidence. Il manque toutefois un déficit de scénario. Sarkozy n'arrive pas à formuler un concept fédérateur de changement. On est encore dans un bouquet de réformes. » Donc il y a quand même le problème de la cohérence qui se pose, Guylaine Ottenheimer.
Oui, et le mot important qu'a prononcé Denis Musset, c'est la durée. Bon. Mais je voudrais juste dire un mot quand
c'est
même.
C'est pas sûr, parce qu'un truc qui a échappé, qui a échappé complètement aux journalistes pendant la conférence de presse, il a dit quelque chose d'outé fait troublant. Quand on l'a demandé ce qu'il comptait faire au deuxième mandat et s'il avait le temps, il a dit qu'il n'y pensait pas et quand même, quelque part, il le refusait. Peut-être qu'effectivement, il veut se consumer en un seul.
Quand je dis durée, c'est pas forcément qu'il va faire un ou deux septemas. Je veux dire, est-ce que ça va s'inscrire dans la durée ? Est-ce qu'on va avoir une vision du sarkozisme à force de voir toutes ces images pixelisées qui se rajoutent les unes aux autres. Mais je voudrais juste dire un mot quand même sur les sondages. On peut trouver toutes les raisons à cette dégringolade dans les sondages. Il y a effectivement que l'électorat plus âgé, j'étais au Conseil national de l'UMP, c'est vrai que la dame de 50 ans n'a pas tellement aimé voir Carla Bruni, où comme on disait, on voyait la jonction entre le t-shirt et le pantalon. Ils interdisent à leur gamine de le faire et ils n'aiment pas beaucoup que la femme du président le fasse en vacances, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu, ils étaient choqués, troisième femme affichée, etc. Et il y a eu quand même un dérapage, donc on voit un électorat conservateur. Bon, il y a le non-pouvoir d'achat qui effectivement fait qu'un certain nombre de catégories populaires se sont détachées. Mais quand on regarde, ce qui est très intéressant, c'est l'atterrissage des premiers mois d'un mandat de président. Eh bien, il y a toujours une très difficile adaptation entre la promesse et la réalité. Et quand on voit Mitterrand, ça a pris, c'est en juin qu'il a commencé à décrocher, en juin de l'année suivante. Chirac, c'est pratiquement en octobre, quand il a fait son fameux discours en disant il faut s'adapter, il faut faire finalement la politique d'austérité qu'avait prôné Balladur, parce que si on veut rester dans les clous de l'Europe, on est obligé de renoncer à la réduction de la fracture sociale. Et il a décroché à ce moment-là. Et Nicolas Sarkozy, lui, commence à décrocher parce que c'est vrai que son travailler plus pour gagner plus n'a pas donné de résultats immédiats. Et c'est ça qui est intéressant dans Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas choisi d'être dans l'incarnation. C'est vrai que Mitterrand et Chirac étaient dans une forme d'incarnation. Bon, ils incarnaient la République avec tous ses atours, cette distance, une forme de secret, une forme de mystère, etc. Et lui, il a choisi la surexposition. D'abord, il ne s'en sent pas capable de l'incarnation. Ce n'est pas un conceptuel.
Il incarne la République, mais il l'incarne différemment.
Non, mais pas l'incarnation du monarque qui est l'arbitre, qui est au-dessus de ça.
Non, mais c'est un monarque proche. C'est un monarque de télé-réalité qui permet l'identification.
Il a changé la fonction présidentielle. C'est qu'il n'est plus le président du club, il est le capitaine du club. Bon. Et en quelque sorte, il est dans l'efficacité. Et c'est ça qui est très dangereux pour lui. C'est qu'il y a une série de problèmes qu'il a listés. D'ailleurs, à l'Élysée, il y a toute une série de thématiques et puis il intervient sur chacune des thématiques. Et ça demande des résultats. Or, on sait très bien que les résultats, c'est impossible d'avoir tout ça. Le pouvoir d'achat, c'est la résultante de politiques longues. Et donc, il n'a pas voulu inscrire sa politique dans un raisonnement en disant, voilà, je fais de la pédagogie, je suis un leader, parce que c'est ça un leader. S'il amène une opinion qui est là, il l'amène là, en lui disant, ben voilà, on va traverser ces crises, on va se passer par là, là, il faudra traverser une rivière, là, il faudra monter un col, puis là, enfin, on aura peut-être une jolie maison. Mais là, il n'explique pas ça. Il est dans l'urgence tout le temps. C'est lui qui met l'urgence. C'est pas nous les médias qui mettons les choses dans l'urgence.
Les deux.
On est obligés par une certaine urgence. Mais s'il y avait des discours, quand j'ai vu le discours de Tony Blair, il s'intéresse beaucoup plus à l'intelligence et Nicolas Sarkozy beaucoup plus aux tripes. Et c'est vrai que l'intelligence, ça dure plus longtemps. Je veux dire, on inscrit dans le cerveau des gens une compréhension, une lisibilité, disons pas à long terme, mais au moins un moyen terme. Tandis que là, il est dans l'immédiateté. Il a des slogans qui demandent une immédiateté. Et je pense que c'est ça la difficulté dans la durée. De Nicolas Sarkozy, c'est que là, il va traverser une année extrêmement difficile. On le voit bien, le contexte économique, les municipales qui vont être très difficiles pour la droite mécaniquement, puisqu'ils en avaient gagné beaucoup de villes en 2001, et là, ils vont en perdre. Et des importantes. Donc, on va avoir un trou d'air absolument phénoménal au printemps, au moment où la France va prendre la direction de l'Union européenne. Donc, je veux dire, là, Nicolas Sarkozy s'est mis dans une situation extrêmement difficile.
Alors, Jean-Daniel Lévy, vous qui êtes un spécialiste des sondages d'opinion, est-ce que vous estimez que l'atterrissage en termes de popularité de Nicolas Sarkozy se produit dans de meilleures ou dans de pires conditions que celles de ses prédécesseurs, d'après les chiffres qui sont en votre possession ?
En tout cas, la baisse est plus brutale par rapport, en fait, par rapport aux prédécesseurs. Et peut-être que, effectivement, la question de l'inscription dans le temps est une question fondamentale. Si on revient d'ailleurs sur la campagne présidentielle, on a vu que Nicolas Sarkozy avait construit un récit. il a construit un récit et une réévocation de ce qu'était la nation selon lui, de l'histoire de France, et dans quelle mesure lui-même s'inscrivait dans cette histoire de France, en transparent.
Vous avez vu ça, vous ?
J'ai vu ça, bien évidemment, lorsqu'il revient en fait sur la France dans sa complexité, dans son histoire et dans sa continuité que lui-même assumait en remontant même quasiment avant la création de la République, lorsqu'il va mobiliser des personnalités ou des acteurs qui sont d'ailleurs parfois qui ont parfois été effacés de la mémoire collective. On se rappelle par exemple de l'épisode de Guy Moquet, cette capacité à se dire voilà, nous sommes, je suis le représentant d'une France qui est diverse, qui transcende les clivages politiques et dont l'histoire ne fait que passer et parmi lesquels en fait je m'inscris dans un temps relativement long. Tout ce type de discours a fonctionné quasiment jusqu'au soir de son élection. Après, il a basculé dans un discours qui est un discours beaucoup plus d'efficacité, de réaction et de dynamisme politique. Et je pense qu'aujourd'hui, si justement il revient sur la question de la politique de civilisation, et même s'il ne s'inscrit pas entièrement dans les pas de Morin, et s'il lui-même redonne un sens qui lui est propre, c'est justement pour amener les Français, non pas à le juger immédiatement sur les résultats et sur la question de l'efficacité, mais plus d'être sur une question de projection dans l'avenir et de capacité de se dire effectivement aujourd'hui nous vivons des moments qui sont difficiles, mais si nous arrivons à nous projeter au cours des 2, 3 ou 10 prochaines années, peut-être que l'espoir autour de ce que va être la France en 2012, 2014 ou plus tard encore, nous permettra de voir l'avenir avec un certain optimisme. Si on regarde, par exemple, la question emblématique du pouvoir d'achat. La question emblématique du pouvoir d'achat, elle est liée aujourd'hui à une difficulté réelle, perçue en tout cas par les Français, de pouvoir boucler leur fin de mois. Mais elle est d'autant plus, je dirais, fortement internalisée et vécue négativement par les Français qu'ils ne se voient pas d'espoir. Et ils n'estiment pas aujourd'hui que la situation qu'ils connaissent aujourd'hui va être amenée à véritablement progresser au cours des prochaines années. Et même lorsqu'ils se projettent encore un petit peu plus loin et lorsqu'ils regardent leurs enfants ou l'avenir même de la planète, ils se disent que nous sommes plutôt dans une période qui apparaît comme étant plutôt dépressive qu'optimiste. Et donc, en fait, une situation actuelle qui est apparue comme étant contrainte, difficile à vivre, et d'autant plus difficile, je dirais, à pouvoir être jugée positivement ou en tout cas être mise de côté si on se dit que l'avenir n'apparaît pas comme étant entièrement rose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les discours de Nicolas Sarkozy qui visent à donner un petit peu plus de corpus idéologique et de lien entre les différentes réformes vise à redéfinir un mandat présidentiel et redéfinir un avenir de la société française.
Est-ce que je pourrais résumer vos propos de manière brutale en disant que la politique de civilisation, c'est de la poudre aux yeux en attendant que les réformes aient enfin porté les fruits qu'on attend d'elles ?
Je pense que c'est un petit peu raccourci. En tout cas, ce que je pense qu'en fait, que tous les constats qui ont été faits autour de cette table sont aujourd'hui bien perçus par le président de la République, Nicolas Sarkozy, et qu'il se dit qu'il a besoin de redonner un petit peu de sens à son action, de donner de lien à l'ensemble de ces réformes. Et d'ailleurs, on parlait des vœux présidentiels du 31 décembre. Il y a eu des accents qui ont été des accents extraordinairement gaulliens lorsqu'il parlait de la place de la France dans le monde, une certaine forme de fierté d'être français et de capacité la France à pouvoir se projeter et de projeter ses valeurs sur le reste du monde, un petit peu comme au siècle des Lumières où on voulait illuminer le reste du monde. Donc nous sommes sur un changement pour partie de discours.
Denis Musée.
Le livre des gestes de la politique de civilisation, qu'il appelle La Renaissance, qui est le livre probablement de 2008, qui fait suite au livre de La Rupture, qui était le livre de 2007, c'est avant tout un retour au verbe et aux valeurs. Et effectivement, je suis d'accord avec Jean-Daniel Lévy pour rappeler que pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a construit sa victoire à la fois sur la figure du changement. J'ai changé, et c'était une conversion personnelle, psychologique, qui permettait l'identification. Il a réussi à faire penser qu'il n'était plus nerveux et speedy. Et aussi sur l'exercice du verbe. Il a mobilisé tous les grands mythes de l'histoire, empruntant vaillamment à la gauche, au risque de choquer un certain nombre de personnalités de gauche. Et il a conquis, je dirais, son élection grâce à cet exercice puissant du verbe avec un parolier formidable qui est Henri Guénaud. Et puis, à partir du 5 mai, le verbe disparaît et on est dans l'image. On est dans une succession de cartes postales qu'il nous envoie des quatre coins de l'hexagone où il est censé agir et sa présence sur le terrain à valeur d'action est déjà presque de guérison. C'est le roi qui guérissait les écrouelles. Et donc ces images sont à peu près crédibles jusqu'aux images, je dirais, malencontreuses du mois de décembre avec Carla Bruni où on était passé de la star un peu à la starlette, c'est-à-dire qu'il en dévoilait trop. Et moi je pense que le 8 janvier, quand il définit la politique de civilisation, il revient à la magie du verbe. Il tente de revenir sur le terrain des valeurs, de la civilisation. On est dans le prolongement du discours de Latran aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une campagne municipale qui s'ouvre. Il sent que ça va être difficile, que le terrain n'est plus porteur comme il l'était. Et donc, il s'agit de repartir dans une conquête. Mais la véritable question, au fond, c'est comment mettre en récit l'action politique ? On ne peut pas, aujourd'hui, rendre visible une action politique, un travail qui est un labeur, si vous voulez, qui est fait de dossiers, de négociations compliquées, de rencontres avec les syndicats, de lois, de votes de lois, de décrets d'application. Ce n'est pas visualisable. Résultat, entre une décision et les effets produits sur la vie quotidienne des Français, il s'écoule entre 2 et 3 ans. Et cette visualisation du temps long du politique que Rocard essayait de montrer, on le voyait à son bureau en train de paraffer des dossiers, de travailler sur des dossiers, et il revendiquait le devoir de grisaille, le temps long du politique. Ce temps long du politique, Nicolas Sarkozy l'a nié. Il a dit « je vais tout faire en même temps, toutes les réformes ». Je l'ai dit tout à l'heure, il a supprimé la dimension temporelle et il s'est concentré sur l'instantané et sur l'espace. Eh bien, le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est allé trop loin sur cette instantanéisation qui est renforcée par les médias qui jouent la dictature de l'urgence, ne serait-ce que pour dramatiser et créer une logique d'audimat et de peur. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, son problème, c'est effectivement de redonner, de réinscrire l'action dans le temps, de reséquencer l'action, d'avoir des objectifs à moyen terme, des rendez-vous d'étape, des rendez-vous intermédiaires, et de laisser aussi, je crois qu'il va le faire, monter au créneau le Premier ministre, les ministres, parce qu'il n'y a pas de doute que derrière un président qui donne une image de l'action, qui raconte une histoire à travers des épisodes successifs selon les principes de la télé-réalité, il y a des ministres qui travaillent, il y a un gouvernement qui travaille, qui agissent au fond. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'action, mais il faut la rendre visible.
Et Éric Maigret, vous disiez tout à l'heure que Nicolas Sarkozy avait entamé un processus de sécularisation de notre République qui devient une démocratie lambda, j'ai envie de dire, justement, qui enlève tous les vieux oripeaux du 19e siècle. Alors on peut effectivement s'en réjouir parce qu'après tout, il y a un côté hors de la République qui est parfois un peu pesant en France et qui fait que notre démocratie ne fonctionne pas tout le temps comme elle devrait. Le rôle du Parlement est complètement négligé, par exemple. Mais précisément, est-ce que Nicolas Sarkozy nous aide à refaire fonctionner nos institutions correctement, j'ai envie de dire, la tête à l'endroit? On continue à avoir un président qui gouverne comme un monarque. C'est pas parce qu'il s'est montré proche de nous, qu'il nous fait participer à sa vie privée, etc., etc., qu'il est bling-bling et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, que finalement, que notre démocratie redevient notre affaire, j'ai envie de dire. On reste toujours dans... Finalement, on a remplacé un monarque par un chef de bande. Voilà. Je sais pas si ça, c'est bien pour la démocratie. Éric Maigret.
Je crois qu'il y a plusieurs réponses. Effectivement, pour moi, Sarkozy prend acte du décès d'une certaine politique représentative. Il apporte sa solution. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Je résume ça un peu d'une boutade en disant que il y a un enterrement qui se produit en France, qui est très choquant parce qu'évidemment la France est entre guillemets en retard par rapport à ce qui était enregistré dans beaucoup d'autres pays en termes d'évolution, désacralisation du pouvoir politique, dans le bon sens du terme, je dirais, dans ce cas-là. Et l'enterrement a lieu en France en grande pompe. L'enterrement d'un pouvoir pensé comme absolu, idéologiquement hyper cohérent, hein, c'est ce qu'on appelait les grandes idéologies, etc. Et puis la suprématie de la fonction politique présidentielle représentative. Il a lieu donc cet enterrement en Rolex et en Ray-Ban. Bon, alors ça peut surprendre effectivement, et Carla Bruni au bras du président, ça peut surprendre.
Mais ça a lieu. C'est un peu dur, à vrai
dire. Ça a lieu de cette façon-là.
Alors, on pleure à cet enterrement. Mais enfin...
du point de vue des représentations, il y a donc ce processus qui est en cours et qui est un processus non terminé et interminable. Voilà. Par contre, du point de vue de la pratique, les choses sont moins claires, effectivement, puisque Sarkozy n'a quand même pas renoncé aux oripeaux de la République et à la fonction présidentielle monarchiste d'une certaine façon. Il s'est mis en première ligne. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Jean-Daniel Lévy, il s'est mis en première ligne, il prend tous les risques certes, mais il ne renonce pas à l'excellence et la préséance du pouvoir présidentiel en France. Il ne redonne pas tant de pouvoir que ça au Parlement. Donc de ce point de vue-là, c'est très limité. Donc il faut s'attendre à des fluctuations politiques complexes parce que le président est en place. Les sondages peuvent être très mauvais, ça peut repartir dans l'autre sens. On a vu ça avec Mitterrand tant de fois et Chirac. L'enterrement a lieu au niveau symbolique, il a un peu moins lieu en termes de pratique politique en réalité.
Ce qui est assez étrange, c'est de voir des grands républicains comme Max Gallo, Denis Musset, suivre Nicolas Nicolas Sarkozy, le défendre encore là cette semaine dans Le Point, en disant que tous ceux qui n'arrivent pas à le supporter et qui le voient comme un usurpateur ne sont que des vieux bourgeois qui sont choqués parce qu'enfin on lève le voile de l'hypocrisie. Il défend Nicolas Sarkozy alors qu'il représente l'intellectuel, au contraire, très attaché à cette fonction sacrée et symbolique du président républicain. C'est assez étrange ce qui se passe.
Oui, mais parce que tout simplement, Nicolas Sarkozy, et c'est ce qu'a compris Max Gallo et Henri Guénaud, Nicolas Sarkozy, en tant que formidable acteur, a compris aussi que notre société médiatique se nourrit de mythes et que sans mythes, il n'y a pas de croyance. Et qu'aujourd'hui, il faut croire dans la politique. On est passé de la conviction à la croyance. C'est le titre de mon bouquin du début de l'année, la croyance et la conviction. Et donc, Nicolas Sarkozy fournit des mythes, qui sont des mythes identifiants, qui permettent à la nation de rêver. Il a réussi à fédérer des électeurs de gauche et de droite, en tout cas un certain nombre de gauches, sur son nom, ou du centre-centre-gauche, pour obtenir la majorité à la présidentielle. Mais pour répondre à votre question, il est un président en majesté, simplement il s'est rendu plus proche, il a donné ce sentiment d'être plus proche, plus humain, plus pratique, plus près des réalités, mais il est un président spectacle, il est un téléprésident.
En majesté et en short.
Il entérine le passage d'une démocratie représentative à une démocratie médiatique. C'est-à-dire une démocratie dans laquelle ce sont les médias et l'utilisation par le politique des médias, mais qui crée le lien, qui crée l'adhésion.
Tout à fait.
Mais le short, il ne le fait plus. Il l'a fait une fois. Je crois qu'il n'était pas conscient. C'est la première fois où Finkielkraut a dit qu'il en avait marre de voir le président transpirant en montant les... Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, parce que quand même, quand vous voyez la sonalité du lieu avec toutes les personnes qui sont en habit, enfin, il y a une
mais
majesté du lieu.
Mais ça, c'est Clinton qui a lancé le premier, avoir fait du jogging,
peut-être pas rentrant par le perron principal de la Maison Blanche au moment où il y a toutes les personnes qui sont en habit, etc. Il y avait quand même...
Et c'est pas un aspect générationnel et baby-boomer.
Après, Finkielkraut a dit aussi que la façon dont il s'était promené comme un monsieur tout le monde chez Disney était déprimant. Et c'est vrai qu'une partie de l'intelligentsia voyait plutôt un président comme François Mitterrand allant faire les bouquinistes pour acheter des collections, ou même à la limite Jacques Chirac se passionnant pour les arts premiers. Il y avait, disons, une espèce d'admiration pour l'élévation d'esprit du chef de l'État.
La légitimité culturelle.
Et là, on se dit, bon, il fait du jogging et il va chez Disney, etc. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est cette histoire de cette question de durée, de projection demain, de que va devenir le sarkozysme. Puisqu'on voit très bien qu'on a du mal à définir ce que c'est que le sarkozysme. Hein. C'est des images, c'est des mythes, c'est des postures, c'est un peu de libéralisme, un peu de position républicaine. On voit très bien que c'est un amalgame de choses.
Une bonne dose de volontarisme aussi.
Une bonne dose de volontarisme. Moi, ce que je pense, c'est que là, il a dégringolé dans les sondages de manière très significative, pour plein de raisons. Et quand on compare, finalement, à ce qui s'est passé avec François Mitterrand ou Jacques Chirac, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il va descendre jusqu'à 30% seulement d'opinion positive.
Qu'on peut réformer le pays avec 30% d'opinion?
Et est-ce qu'il pourra encore faire quelque chose avec 30%? Moi, je pense que la grande différence avec, pas avec François Mitterrand, mais avec Jacques Chirac, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion est très clivée. On voit très bien que l'électeur de gauche est en train de se rebeller contre la façon dont les choses se passent. Et que, bon, sur la forme, son électorat, notamment le plus conservateur, n'est pas très... Il n'y a pas d'adhésion, je veux dire, il y a de méfiance. Mais il y a une sorte, ce que j'appelle un pari de Pascal, c'est-à-dire, s'il y en a un qui peut bouger le pays, c'est lui. Alors, on n'aime pas la façon, on n'aime pas ce qu'il est, on ne se reconnaît pas, mais finalement, il bouge quand même des choses. Et il a quand même réussi... Alors que c'est vrai que l'action politique s'inscrit plutôt dans le temps long, il a réussi à créer quelques ruptures qui vont marquer. Alors, elles sont superficielles, elles ne sont pas assez, etc. Mais quand même, par exemple, les régimes spéciaux ou bien l'autonomie des universités.
Ou l'audiovisuel.
Ou l'audiovisuel, ou bien la fusion UNEDIC, etc. C'est des choses qui sont quand même, qui prouvent une volonté de changement.
Réformes qui sont promises depuis 20 ans et que personne n'avait fait. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très révolutionnaire.
La façon dont il a redonné leur chance aux partenaires sociaux pour dialoguer, c'est quelque chose qui, quand même, s'était perdu. Donc, je veux dire, il a quand même à son actif des choses qui font que de mon point de vue, il ne va pas descendre à 30. Il va être très clivé, là où l'ouverture avait permis de surfer sur des 70%, parce que la différence des 70 à 45, c'est finalement l'électeur de gauche qui s'était dit pendant un temps, bon, ben, on va voir ce qu'il donne, parce qu'après tout, on va lui laisser sa chance. Bon, ben, ces gens-là se sont évaporés dans la nature. Bon, et donc, il ne reste que, finalement, la France est à 50-50. Bon, ben, il ne reste que ces 50-là, mais avec une très grande critique à l'égard de la manière et du style.
Jean-Daniel Lévy, j'aurais posé une question à la fois d'actualité et extrêmement people. On voit bien que la première dame de France, Cécilia Sarkozy, est donc remplacée incessamment sous peu, c'est peut-être déjà fait, par Carla Bruni. Alors, on voit bien qu'on a quand même affaire à deux styles extraordinairement, à deux cultures extrêmement différentes. Cécilia Sarkozy, c'était vraiment bling-bling. Alors là, c'était vraiment... Elle roule en Mini Cooper. Elle fréquente les boutiques de luxe
du
Faubourg Saint-Honoré. D'autre côté,
Madame Chirac, Madame Lang aussi avant. Ah oui, Madame Lang était habitée par Dior de la tête aux pieds, mais ça se disait pas.
Oui, mais
je surprends que Cécilia n'est pas bling bling. Je crois que Nicolas Sarkozy qui l'a poussée à une attitude bling bling. Mais quand on voit la façon dont elle a élevé ses enfants, dont elle vit, elle se reconnaît beaucoup mieux dans le style de Richard Attias, qui est discret. Elle aime l'opulence, c'est une grande bourgeoise, mais elle est beaucoup moins bling bling que Nicolas Sarkozy l'est avec ses copains du cinéma et avec Pierre Charron qui est son monsieur faiseur de noces.
Enfin, en attendant, on va avoir une nouvelle première dame de France, Carla Bruni, qui elle vient du milieu germano-pratin, le plus bien pensant gauchisant. Elle était encore aux manifestations contre l'ADN. Elle fréquente le milieu. Elle c'est une icône des Inrecuptibles et Télérama. Est-ce qu'il s'agit de l'ouverture qui continue? Est-ce qu'il s'agit de cette obsession sarkozienne de s'emparer des symboles de la gauche jusqu'au dernier? Peut-être qu'un jour il proclamera la nationalisation des moyens de production et d'échange et on pensera encore qu'il s'agit d'un piège à gauche. Ou est-ce que c'est donc une espèce d'obsession de s'emparer des symboles de l'adversaire? Est-ce que ça va métamorphoser le style de Sarkozy? Est-ce qu'il va échapper au bling-bling grâce à l'ouverture d'esprit et au bon goût germano-pratin de Carla Bruni?
La question que vous me posez est une question assez audacieuse. Il faudrait que je connaisse suffisamment bien et Carla Bruni et la nature des relations entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy pour savoir quelle est la capacité d'influence en fait de Carla Bruni. Donc
j'ai une difficulté.
Guylaine
Ottenheimer qui connaît le dessous des cartes.
L'origine de la rencontre, c'est exactement ça. C'est Jacques Séguéla qui veut faire rencontrer à Nicolas Sarkozy d'autres chanteurs, d'autres personnalités que celles qu'on a vues effectivement au Vatican ou le soir de la victoire à la Concorde. Donc Jacques Séguéla qui a fait le choix de Nicolas Sarkozy, toujours pour la même raison, celui-là va pouvoir peut-être bouger les choses alors que Ségolène Royal ne semble moins apte à ça. Et il se dit, bon, il faut absolument qu'on change l'environnement culturel du président de la République. C'est pas possible qu'on en reste à Mireille Mathieu et à Bigard. Bon, et c'est comme ça qu'il lui fait rencontrer Carla Bruni. Oui, d'une certaine manière, ça va changer. Et on est déjà passé de la Rolex à la Patek Philippe.
Hein. C'est clair. On s'interroge sur ce que c'est que le sarkozisme. Je dirais, le sarkozisme, c'est sur le plan de la forme, du style, de la communication. C'est un mouvement perpétuel et c'est de la vitesse, c'est de la rapidité. Mais sur le fond, c'est un syncrétisme. C'est un syncrétisme de différentes valeurs. Et là, je rejoins tout à fait Éric Maigret. C'est un syncrétisme entre Carla Bruni et Edgar Morin. C'est pas un hasard si Edgar Morin apparaît au moment des vœux de Noël. Parce que Carla Bruni, voilà, c'est ce côté nouvelle gauche, un peu rive gauche. Et Edgar Morin, c'est aussi la gauche, mais c'est une gauche, elle, intellectuelle, qui réfléchit, etc. Et je crois que Nicolas Sarkozy, il est à la fois bling-bling et gong-gong. À la fois l'argent, l'efficacité économique, mais aussi les valeurs, la culture, du moins l'affirme-t-il. Et je pense que dans ce sens-là, ce syncrétisme répond à ce que chaque Français vit. Les Français sont pétris de contradictions. Ils veulent du bling-bling au sens où ils veulent de la réussite matérielle. Pas tous, évidemment, pas ceux qui crachent sur Euro Disney, qui sont une élite, une élite intellectuelle et parisienne. Mais la grande majorité des Français, ils adorent Euro Disney. Ils adorent aller claquer l'argent, jouer avec leurs enfants, etc. Donc les Français, ils veulent à la fois de l'efficacité économique, de la réussite matérielle, de l'argent, ils veulent gagner plus, ils l'ont dit, ils ont pris au mot Nicolas Sarkozy là-dessus. Mais ils veulent aussi des valeurs, de l'identité, du sens, de la profondeur, du temps long. Ils veulent du bling-bling et du gong-gong.
Éric Maigret, ça va être difficile de donner tout ça à la fois.
Non, mais il y a une adaptation à un tournant post-rigoriste dans la société française. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu aux États-Unis depuis une bonne vingtaine d'années, en réalité. Ce n'est pas tous les Français qui souhaitent avoir ces formes de représentation de la politique, et pas nécessairement sous ces formes-là, justement, mais effectivement, Sarkozy, à sa façon, assume une espèce de post-rigorisme. Bon, voilà. D'un autre côté, sur Edgar Morin, moi, je suis très amusé, parce que mon bouquin, justement, porte en partie sur Morin comme analyseur de ce que peut être le sarkozisme, et je l'ai écrit en partie au mois d'août dernier. Je suis étonné de voir à l'arrivée ça, Morin reçu à l'Élysée.
Bon. Vous n'avez pas joué un rôle personnel ?
Non, mais bon, je connais Morin quand même. Mais ce que je veux dire dans cette affaire-là, sur l'affaire Cecilia, c'est Morin qui a en grande partie raison depuis 1962. Ce à quoi on assiste, c'est une adaptation de la politique, là encore, comme le divertissement auparavant, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, à ce tournant rigoriste et à ce que Morin appelait la crise du bonheur dès les années 60, c'est-à-dire le fait que la société est devenue très complexe dans les relations conjugales, familiales, et le champ politique était le seul à avoir échappé en apparence à tout ça. Tout le monde était marié, tout le monde se disait bien en couple, en ménage, etc. Madame était au fourneau, aux cuisines en général, et Sarkozy en train de prendre acte de cela d'une façon complètement peut-être médiatico-superficielle, mais il en prend acte avec un certain courage, d'une certaine
une
façon.
Une simple mise à niveau. Voilà. Je vous remercie Éric Maigret, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie des médias à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, que vous êtes chercheur au CNRS, que vous enseignez aussi à Sciences Po Paris et que vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir chez Armand Collin qui s'appelle L'hyper-président ou l'hyper-président, donc pour faire le jeu de mots auquel vous avez fait allusion. Guylaine Ottenheimer, vous êtes éditorialiste à Challenge, vous êtes chroniqueuse aussi sur iTélé et à RTL et puis vous avez sorti un livre sur Sarkozy qui s'appelle Le Sacre de Nicolas, petits et grands secrets d'une victoire au seuil il y a quelques semaines. Denis Muset, vous êtes sociologue et vous dirigez l'Institut Médiascopie ainsi que l'Observatoire du débat public. Vous enseignez au département de Sciences Po de Paris 1 Sorbonne et vous êtes le co-auteur avec François Josse d'un très intéressant bouquin qui s'appelle Le Télé-président qui vient donc de sortir il y a quelques jours aux éditions de l'Aube.
Demain, rendez-vous à 17h pour une émission justement sur la réforme de l'audiovisuel, télé sans pub, télé sans avenir, avec Mathieu Mouly, Dominique Richard, Didier Mathus, Maurice Friedland et Michel Sénéjou, journaliste à Télérama. Merci à toute l'équipe du Grain à Moudre. Il est 17h55, on retrouve tout de suite le regard d'Albert Jacquard.